Karine, bonjour.
Bonjour Ghislain et bon dimanche à tous. Le sommaire de cette édition de la mi-journée. 4 morts et 2 blessés graves, c'est le bilan d'un accident de circulation survenu hier soir au quartier Agramana Sibut. Précision au début de ce journal. Plein des élèves de certains établissements publics de Bangui, ils dénoncent l'inaction des associations des parents d'élèves. Le président de la Fédération des APE appelle ses élèves au calme et à la patience. Et puis colère également des revendeurs de carburant à Berberati. Ils réclament des opérateurs économiques chinois le paiement de leurs dettes qui s'élève à plus de 40 millions de francs CFA. Du football, poursuite du championnat de la Ligue de Bangui au stade Barthélémy Bouganda, Olympique Real de Bangui, FC FDS à 14h et AS Tempête Mokaf, les Anges de Fatima à 16h. Je suis avec Igor Diesquin Sénapay pour la présentation de ce journal. Igor, bonjour.
Bonjour Karine, bonjour à tous.
Ouvrons ce journal avec cet accident de circulation survenu hier soir au quartier Agraman à Sibut.
Karine, le bilan fait état de 4 morts et 2 blessés graves, tous membres d'une même famille. Les précisions de Serge Romiel Damili.
L'accident s'est produit aux environs de 18h au quartier Agraman. Il s'agit d'un véhicule de transport de marchandises de marque Mercedes 18 roues qui a heurté un conducteur de moto transportant 5 personnes. Le conducteur de la moto, comme infirmé à l'hôpital de Sibut et d'autres passagers, sont morts sur le coup. Cet accident a également occasionné 2 blessés graves. La dépouille mortelle de l'infirmier et l'un des blessés ont été conduits à Bangui, alors que l'autre blessé est admis à l'hôpital de Sibut. Le véhicule en provenance de Bangui pour Kakabandoro a été escorté par les soldats de la MINUSCA à Kakabandoro. Une enquête est ouverte par la gendarmerie pour rétablir les responsabilités. Sibut, Serge Romiel Damili, Radio Ndekeluka.
Igor, venons-en à cette plainte des élèves de certains établissements publics de Bangui.
Ils dénoncent l'inaction des associations des parents d'élèves APE qui perçoivent annuellement les frais d'assurance alors qu'aucune réalisation n'est faite. Ces élèves appellent à la transparence.
Armando Yanginji.
C'est l'expression d'un ras-le-bol généralisé. Du lycée des martyrs à celui des carents, en passant par Miskine et Gobongo, les élèves se disent mécontents des associations des parents d'élèves. Ils confirment avoir versé annuellement les frais d'assurance, mais n'ont vu aucune réalisation. Quelques-uns témoignent.
Par exemple, dans notre salle, l'effectif est vraiment précaire. L'APE ne travaille même pas en tant que tel, quoi. Même les bâtiments, les peintures sont vraiment saletées, même les toiles sont vraiment dévoilées, quoi. Je ne vois même pas le travail de l'APE dans notre établissement.
Les parents d'élèves ne travaillent même pas. Dans notre salle, l'effectif, c'est beaucoup.
L'association des parents d'élèves, je vois qu'il n'y a pas de travail qu'ils ont effectué dans notre établissement. Par exemple, dans les lycées, il y a de saleté.
Parlons de l'APE dans notre établissement, c'est de la catastrophe. Souvent, on paye l'assurance à 2500. Nous sommes presque 10 000 élèves au sein de l'établissement de Martyrs. L'APE ne fait pas leur travail.
Que font les APE avec l'argent collecté? Difficile de répondre à cette question. Selon nos informations, certaines APE ne s'attendent pas avec les administrations des établissements scolaires à cause de cette pratique. Pour illustration, au lycée des Martyrs, le provisorat est à couteau tiré avec l'APE. Africain Kazangba, président de la Fédération des associations des parents d'élèves de Centrafrique, appelle les élèves à la patience.
Si il y a un problème pour la fabrication des tables bancs, il y a un problème également pour quelques divers dans les établissements, je crois que c'est l'apport des associations des parents d'élèves. Puis les rubriques sont différenciées. Il y a la rubrique assurance, la rubrique impression pour nos enfants et la rubrique APE. Le fonds de l'APE revient de droit à l'association des parents d'élèves pour le fonctionnement de l'école. Ce n'est pas pour une tierce personne, mais c'est pour le travail de l'école.
Les APE ont un mandat de 3 ans renouvelable, tandis que leur fédération, elle, a une durée de 5 ans. Selon toujours nos sources, les associations sont devenues l'apanage de certaines personnes qui gagnent leur vie à travers les frais des assurances des élèves.
Armando Yanguindi sur Radio Ndekeluka. La protection des enfants dans un pays en conflit demeure une préoccupation des Nations Unies.
Hier, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU sur la protection des enfants, Virginia Gamba, en fait de mission de 5 jours, a noté cette urgence pour la cause des mineurs en RCA. Selon elle, des propositions ont été faites au gouvernement et aux signataires de l'accord de Khartoum Khartoum afin d'élaborer un plan national de prévention des violences commises à l'endroit des enfants.
Au micro de Inès Lorongopo, Vladimir Montero, porte-parole de la MINUSCA, précise l'importance de cette campagne mondiale qui va durer 3 ans à travers le monde.
Cette campagne elle est importante parce qu'elle porte sur les différentes violations qui affectent les enfants en zone de conflit, qui vont au-delà du recrutement, qui vont aux attaques contre les écoles, aux obstructions faites, au travail des humanitaires qui essaient d'assister les enfants. Elle a fait beaucoup de plaidoyers ici, notamment pour que le gouvernement élabore un plan national de prévention des violations commises envers les enfants. Mais comme elle a dit également, elle ira à New York pour faire un plaidoyer pour que des moyens soient attribués aux différentes structures, notamment l'équipe qui est chargée de suivre cette question, composée par la MINUSCA, l'UNICEF et d'autres partenaires, pour que des moyens soient donnés, notamment dans la réinsertion de ces enfants.
Vladimir Montero, porte-parole de la MINUSCA. Cependant, la problématique du respect des droits humains en Centrafrique a été au centre d'un séminaire sous-régional de 3 jours qui a pris fin ce samedi à Bangui.
Cette session de formation a regroupé des juges, des avocats, des policiers, des gardiens de prison, la société civile et les acteurs internationaux. Il a pour objectif de faciliter un accès équitable à la justice et à faire respecter l'état des droits au sein des structures nationales.
Traoré Ouedjofini, président de la Commission nationale des droits de l'homme de la Côte d'Ivoire, au micro de Eda Lutindjiko.
On vient de terminer un thème très intéressant sur les questions des droits de l'homme et l'état de droit. Pour tous les militants des droits de l'homme, c'est, je veux dire, une sorte de sacerdoce quand on travaille pour les droits de l'homme. Tout le monde a besoin des droits de l'homme. Tout commence par les droits de l'homme et se termine par les droits de l'homme. Le président de la République de la Centrafrique a besoin des droits de l'homme. Tout ce que les magistrats font relève des droits de l'homme. Nous, chez nous, une justice indépendante fait partie de l'état de droit. L'état de droit est un objectif des droits de l'homme. Et donc, il fallait le démontrer à tous ceux qui sont là, notamment la Commission nationale des droits de l'homme, qui est venue vraiment en nom, je voulais vraiment les féliciter, et tous les autres collègues qui sont venus des autres régions de l'Afrique centrale, pour que nous échangeons sur les constituants de l'état de droit. Qu'est-ce qu'un état de droit? Un état de droit, c'est le respect des droits de l'homme. Un état de droit, c'est la séparation des pouvoirs. Il faut soutenir tout le monde. Et dans ce soutien, il faut commencer par soutenir la Commission nationale des droits de l'homme de la Centrafrique, qui n'a pas de moyens. C'est injuste. Je viens d'une Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Notre budget est de 1 300 millions. Et ils n'ont même pas 2 millions. Ce n'est pas normal.
Ce séminaire sous-régional sur l'état de droit tenu à Bangui du 2 au 4 mai a été initié par l'Union africaine. Direction la Mombéré KDI, avec ce mécontentement des revendeurs de carburant à Berbérati, ils réclament des opérateurs économiques chinois le paiement de leurs dettes de plus de 40 millions de francs CFA. Les démarches menées auprès des autorités politiques et administratives locales ont été vaines. Les mécontents attendent la réaction du gouvernement pour envisager d'autres options. Correspondance de René-Pierre Ndoumbé.
Plus d'une vingtaine de revendeurs de carburant ont ravitaillé la société minière chinoise dans la commune de Sosona-Kombo sans encaisser l'argent. Ils ont estimé que le montant de la dette s'est élevé à plus d'une quarantaine de millions de francs CFA. Un des revendeurs, Junior Dake, a indiqué que leurs activités commerciales ont connu une baisse à cause du non-paiement de cette somme. Celui-ci a demandé au gouvernement de leur voler au secours dans les stratégies de paiement de cette dette.
Bonjour, Kenabeti, par rapport à
nous sommes en colère par rapport à la livraison faite aux sociétés chinoises il y a 9 mois. Elles ont repris les activités depuis 3 mois sans songer à nous payer. Nous demandons au gouvernement de nous aider à bénéficier de cette somme. Dans la Mambéré KDI, nous ne sommes pas violents. C'est avec le fruit de ce commerce que nous prenons en charge nos familles et payons nos taxes. Aujourd'hui, qu'allons-nous faire?
Il convient de rappeler que cette dette n'a pas été remboursée suite à la crise qui a entraîné la mort des ressortissants chinois dans la localité. La société minière, selon ses revendeurs de carburant, a repris ses activités il y a 3 mois, mais achète aujourd'hui du carburant au Cameroun. René-Pierre Ndoumbé, Berbérati, Radio Ndekeluka.
Retour ici à Bangui Igor, où le réseau des volontaires de la paix a fait de la non-violence la active et la gestion des rumeurs son cheval de bataille.
Il a organisé durant 2 jours une formation à l'intention de ses membres sur la gestion pacifique des conflits. Les participants ont, entre autres, échangé sur les stratégies de résolution des différends entre les communautés et les valeurs religieuses.
Cette initiative du réseau des volontaires de la paix bénéficie du partenariat de l'ONG International Corps d'Aide. Père Jules Sau, responsable de formation au sein du réseau des volontaires de paix, avec Reine Fabienne Ndotiga.
Alors l'objectif de la formation, c'est d'abord de mettre à la disposition des bénéficiaires une vingtaine de jeunes certains outils dont ils auront besoin pour être dans leurs différentes sphères d'action respectives, des volontaires de la paix, des artisans de paix. Et concrètement, il s'est agi pour nous de leur parler de certaines valeurs culturelles et religieuses que l'on trouve dans les différentes religions présentes en Centrafrique et que l'on trouve dans les différents groupes culturels présents en Centrafrique. La communication et la non-violence active, voilà. C'est l'essentiel de ce sur quoi porte notre formation. Et c'est lorsqu'on est différent qu'on s'enrichit mutuellement. Et c'est pour cette raison que nous avons tenu à leur exposer successivement les valeurs religieuses du christianisme et les valeurs religieuses de l'islam. Pas pour qu'ils deviennent chrétiens ou musulmans, pour ceux qui ne le seraient pas, mais pour qu'ils apprennent à se connaître mutuellement, parce que c'est en se connaissant qu'on parvient à mieux vivre et pour la coexistence pacifique.
Actualité au Soudan, des entrepreneurs locaux se mobilisent pour soutenir le mouvement de mécontentement dans la capitale soudanaise.
La mobilisation populaire continue alors que militaires et civils n'ont toujours pas encore trouvé un accord sur un conseil conjoint qui doit gouverner le pays durant la transition politique.
Jeudi, près d'un million de Soudanais sont descendus dans les rues de Khartoum à l'appel de l'Association des professionnels soudanais Fer de Lance de la contestation. Et puis au Bénin, l'ancien président Boni Yayi, coincé à son domicile depuis les événements de ces derniers jours, a reçu hier la visite de tous les leaders d'opposition.
Il s'agit de l'ex-chef de l'État Nicéphore Soglo, Candide Azanaï, de Rostero L'Espoir, Dom Clam Abalo de l'Union Social-Démocrate, l'homme d'affaires Sébastien Ajavon et Eric Ondete des forces Kouri pour un Bénin émergent.
Boni Yayi a profité de cette manifestation de soutien des autres leaders de l'opposition pour ouvrir sa porte à la presse. Et maintenant, la page sport. Et c'est avec vous Henri Juvenal qui répète bonjour.
Bonjour Karine, bonjour à tous.
Commençons par le football. Poursuite du championnat de la Ligue de Bangui au stade Barthélemy Bouganda. Une alléchante affiche entre Aston Pet Mokaf et les Anges de Fatima à 16h.
Bien avant ce derby, Olympique Real de Bangui sera opposé au FCFDS. Hier, victoire 1-0 du tout puissant USCA sur USCAF et le DFCUiste a disposé de Castelfoot 3-0.
Football encore. Une finale se joue cet après-midi sur le terrain de l'école Saint-Jean dans le deuxième arrondissement de Bangui.
Elle va mettre aux prises à 15h, tout puissant Walumbe à Ice Abbey. Cette rencontre est baptisée du nom de Jean Firmin Pakouzou, président d'honneur de Eskamba Wambesso.
En basketball, la deuxième journée retour du championnat de la Ligue de Bangui prend fin cet après-midi au Palais des Sports.
Trois matchs sont au programme. Nuitec Jibabe Kages à 14h, Tongolo affronte Gospel à 15h30 et à la clôture à 17h, duel entre Itrésor et Zarasclo. Hier, Asopété a battu Red Star 69-31 et Abbey a eu raison de Tondé 82-56.
Parlons de handball, la première journée du championnat s'achève cet après-midi sur le terrain de l'INJS à Bangui.
Cet après-midi à 14h, National Zango va recevoir Action Bouger et à 15h45, Academia sera face à Padre Pio. Hier, victoire 37-17 de Don Bosco sur Cobra et Olympique s'est incliné devant le handball club des forces de défense et de sécurité sur le score de 24-20.
Restons toujours en handball, les Fauves féminins cadets et juniors ont livré des matchs de préparation ce matin à l'INJS. Ces Fauves se préparent pour le Challenge Trophy à Kinshasa en République démocratique du Congo.
Le coach de cette équipe, Thierry Clotaire Gabato, donne la lecture du niveau de ces équipes.
Elles continuent de progresser. Lors des premiers tests, on a joué contre des garçons. On a constaté que les filles déjà jouaient mieux. Nous avons renforcé encore l'équipe des garçons parce qu'il faudrait qu'à chaque fois, le nombre de garçons puisse être relevé afin que nos filles également puissent fournir beaucoup d'efforts. Elles se battent, ça c'est vraiment encouragé. Il nous reste encore 2 semaines de préparation. Là où notre point faible, c'est que nous perdons trop facilement les balles en attaque. Et comme les garçons courent vite, quand on perd bêtement les balles en attaque, et ils vont vite en attaque. Et puis, vous voyez, nous avons encaissé 16 buts, mais dans les 16 buts, on a encaissé au moins 10 buts en contre-attaque.
L'une des joueuses, Reine Faki, présente les difficultés qu'elle rencontre dans leur préparation.
J'apprécie bien le niveau de la préparation et nous sommes en train de bien préparer. Sauf que après l'entraînement, nous n'avons pas de perdien pour la récupération et plusieurs joueuses ont perdu du poids. Et voilà, si on pouvait nous aider à nous donner un peu de perdium pour qu'on puisse nous donner un peu de tonus. Nous sommes bien vraiment optimistes. Si nous ne sommes pas optimistes, nous ne pouvons pas venir à l'entraînement, venir jouer, à payer le transport et tout. Donc nous sommes optimistes.
Thierry Clotaire Gabato et Reine Fakier étaient à votre micro juvénal. Et voilà tout pour la partie française de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. La version en sango, c'est juste après la revue à l'international présentée par Jean-Fernand Queen.
La revue du site de Radio Dekeluka.
Ouvrons cette revue par les nouvelles du nouveau sélectionneur des Fauves de Bazoubangui de football.
Le journal du Sénégal a indiqué dans sa publication que le Congolais Bruce Abdoulaye est le nouveau sélectionneur des Fauves. Il succède ainsi à Raoul Savoie, peut-on lire sur cette page.
Le journal Bourg en Bresse aussi revient sur cette nomination.
Bruce Abdoulaye, 37 ans, ancien footballeur professionnel du FBB P01, vient d'être nommé sélectionneur de la République centrafricaine. L'intéressé devait donc quitter le club amateur de Bourg Sud, où il entraînait les jeunes joueurs âgés de 13 ans. L'ancien défenseur central a porté les couleurs de l'équipe pro de Bourges-Péronne quand elle évoluait encore en Ligue 2. Lors de la saison 2016-2017, il venait de valider son 2CS, diplôme d'état supérieur d'entraîneur, et se préparait donc à une reconversion.
Quittant le sport pour la sécurité, c'est le Premier ministre qui se prononce sur les questions des armes.
La Centrafrique a du mal à équiper son armée, a déclaré Firmin Grébada sur BBC. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté mardi 9 avril une déclaration qui fixe les objectifs à atteindre par la Centrafrique pour obtenir un allègement de l'embargo sur les armes qui frappe le pays. Le gouvernement centrafricain réclame la levée de cet embargo en vigueur depuis 2013 pour faire face aux groupes armés et exercer son autorité sur l'ensemble de son territoire. Écoutez le Premier ministre centrafricain Firmin Grébada. Pour lui, les conditions sont réunies pour l'allègement de l'embargo.
Économie cette fois, Touadéra à Washington pour revitaliser l'économie du pays selon la voix de l'Amérique.
Le chef de l'État centrafricain boucle ce vendredi un séjour de 5 jours dans la capitale américaine. Faustin Akoche Touadéra a rencontré le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, a indiqué soutenir fermement les efforts du président Touadéra en faveur de la paix et de la stabilité en République centrafricaine. De même que les réformes pour revitaliser l'économie du pays. Vous pouvez avoir en version vidéo l'interview qu'a accordé le chef de l'État centrafricain à VOA.
Religion dans cette revue, la messe de Pâques à Bangui après un accord de non-agression selon AFP.
En République centrafricaine, une messe de Pâques a été célébrée dans le quartier Castor. Un office rendu possible après la signature d'un pacte de non-agression par les jeunes de deux quartiers frontaliers endeuillés par des affrontements meurtriers ces dernières années. À Bangui, malgré une relative accalmie, des groupes d'autodéfense continuent de s'affronter pour préserver leur influence au détriment des populations.
Jean-Fernand, l'envoyé de l'ONU pour les enfants et les conflits armés en mission en République centrafricaine.
La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU pour les enfants et les conflits armés, Virginia Gamba, a entamé mardi à Bangui une mission de 6 jours. La mission de la représentante spéciale est organisée en étroite coopération avec la mission des Nations Unies en République centrafricaine, MINUSCA, et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, a indiqué Franck Sitoua.
Merci à vous Jean-Fernand.
Merci à vous Géraldine Elie et bonne lecture des informations sur le web à toutes et à tous.